Monsieur Brisebois, monsieur Brisebois. Oui. Avec mes quatre hommes, on vous creuse un trou d'environ 50 à 60 cm de profondeur sur toute la surface. Et demain, je vous coule un bon petit ciment rapide. Et de la façon dont je travaille, monsieur Brisebois, ces fondations seront encore intactes dans 200 ans.
CO2, mon amour.
Monsieur Tony Lottie, est-ce que vous pourriez me jurer que le trou peut être fait ce soir?
Ce soir, dans 200 ans.
Quoi, ce soir, dans 200 ans.
Excusez-moi, ce soir pour 200 ans.
Denis Chessou.
Bon, je peux compter sur vous.
Vous pouvez compter sur moi.
Parole de Tony Lottie.
C'est la parole de Tony Lottie.
Alors vous vous y mettez tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, c'est d'accord.
Sur France Inter.
Eh ben on s'y met tout de suite aussi. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine. Vous l'avez bien compris, donc qui chuchote à l'oreille de la nature, à moins que ce soit l'inverse. Mais là, on va faire une petite entorse et vous allez comprendre pourquoi. C'est Patrick Henry qui nous accompagne à la technique et nous avons préparé l'émission avec Thomas Lehété et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Eh ben oui, on parlait de forêts, donc les forêts se lâchent en finissant leur peau de jaune, de roux, de peinture dorée. Champignons, mousses, fougères au balcon, un truc de ouf qu'on appelle l'automne. Et donc en fin d'émission, eh ben vous aurez une pastille de nature au pied de la Chartreuse en Isère. Je vous ai présenté la semaine passée le 11e parc national de forêts. Alors belle création, oui, mais il y a quand même peu de bonnes nouvelles environnementales en magasin à proposer. Donc ça, on prend. Mais petit a, on sent la pression des communes qui va toujours dans le sens d'une moindre protection des cœurs de parc. Et puis petit b, ce 11e parc se fait aussi quand même sur le dos des 10 autres, c'est-à-dire à budget constant. Alors en langage techno, optimisation des ressources. En français dans le texte, perte de postes commencée il y a 5 ans, de moyens financiers, donc diminution des missions, c'est-à-dire accueil, éducation à l'environnement, police en cœur de parc et exit les centres de documentation. Alors certes, vous me direz, priorité à l'écologie, hein, vous l'avez remarqué, hein, deuxième partie du quinquennat, c'est vraiment ça, avec 831 millions de plus au budget du ministère de l'Environnement. Bon, où seront-ils fléchés, on ne sait pas encore, mais quand même 1073 emplois en moins dans le projet de loi de finances. Alors je sais, dans ce pays, on n'est jamais content. Donc, Pierre, veux-tu habiller Paul de tes jolies branches de hêtre? C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas le choix. Alors, à propos de plomb dans l'aile, il est une monstrueuse bébête de plaine qui s'en est pris une bonne giclée cette semaine. Eh ben, c'est Europa City. Et nous, on est très tristes, parce que quand même, ce super complexe commercial déjà obsolète, ce mensonge présenté comme un quasi-outil culturel, on l'attendait tous. Pour donner un sens supplémentaire à nos vies. Eh ben oui, Europa City d'ailleurs qui aurait quasi flingué autant d'emplois locaux qu'il en aurait créé, mais ce trop gros gibier est maintenant dans la gibecière présidentielle face à un bilan environnemental qui est quand même pas extrêmement génial, on ne peut pas le dire. Donc ça, on va le saluer. Bravo d'avoir mis fin au ravage annoncé. Le président veut du result. Pour sa réélection, donc du résultat. Alors, éject Notre-Dame-des-Landes, la mine d'or de Guyane et Europa City. Faut des trucs qui se voient parce que côté baisse des pesticides, transition énergétique et soudure des EPR, c'est pas encore complètement délirant. Et puis les maires et les préfets sont toujours sur un seul modèle qui étale les humains et l'asphalte sur des tartines de terre agricole. Et puis la publicité pour les produits polluants, eh ben, elle est toujours en pleine forme. Donc bravo pour Europa City, bravo aux associations. Allez, on va le dire aux 4 émissions que CO2 a consacrées quand même au sujet depuis 12 ans quand personne n'en parlait, à la démocratie citoyenne qui gagne donc une bataille. Certes, la gare du Nord à Paris, transformée en centre commercial et qui accessoirement continuera de faire partir des trains, je vous rassure, sera un joli lot de consolation pour Immochan, donc juteuse filiale immobilière du groupe Auchan. Tout ce petit monde, non, soyons tranquilles, n'est pas du tout en soins palliatifs comme Vinci après Notre-Dame-des-Landes qui attend de se jeter sur ADP comme sur une autoroute. Alors au menu, donc vous l'avez compris, je vais vous emmener du côté de Chartres, vous allez comprendre pourquoi, déconstruction, reconstruction avec des matériaux très intéressants. Et puis on débute par le mot de l'environnement. Bonjour Valérie Cabanès.
Bonjour Denis.
Vous êtes juriste en droit international, nous parlons des droits de la nature. Alors ça c'est vraiment votre affaire, une révolution juridique est en cours dans le monde afin de stopper la dégradation des écosystèmes, puis quand même cette érosion vertigineuse de la biodiversité.
Oui, en fait des droits sont reconnus à des éléments de la nature sur tous les continents afin de protéger le rôle qu'ils ont à jouer dans le maintien de la vie et en fait, au final, leur donner la possibilité d'être défendus en justice. En effet, si les conditions de la vie elles-mêmes sont menacées sur Terre, comment pouvons-nous espérer garantir à l'humanité de demain son droit à l'eau, son droit à l'alimentation, son droit à la santé ou même à l'habitat?
Alors dans le système juridique en vigueur, dans presque tous les pays, la nature est considérée comme une propriété.
Et quelque chose qui est considéré comme une propriété, confère au propriétaire le droit de l'endommager ou de le détruire.
Et oui.
Lorsque la nature a des droits, les activités humaines qui interfèrent avec la vitalité des écosystèmes et compromettent leur existence peuvent alors être interdites.
Alors, tout comme la vie est différenciée en espèces, hein, ça on le sait, il s'agit en fait de reconnaître aux espèces et systèmes vivants sur Terre des droits, on va dire, qui leur soient spécifiques et qui soient reconnus aussi comme inaliénables.
Oui, comme nous, nos droits fondamentaux, le droit à l'existence, le droit à la régénération, le droit de ne pas être breveté, de ne pas être contaminé, par exemple par des OGM. Comme pour l'humanité, le droit à une eau saine, le droit à un environnement naturel exempt de pollution industrielle, le droit à un climat sain et stable. Et puis enfin, le droit à la personnalité juridique.
Et ces droits de la nature sont reconnus de différentes manières à travers le monde. Ça nous intéresse.
Oui, en fait, depuis plus d'une décennie maintenant, on assiste à une évolution exponentielle. D'abord, ça a été l'Équateur, en 2008, qui a reconnu les droits de la nature dans sa constitution. Puis la Bolivie, en 2010. Enfin, on a des États mexicains, entre 2014 et 2019, qu'ils les ont reconnus, et tout dernièrement, l'Ouganda en Afrique.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est l'expérience équatorienne.
Alors l'expérience équatorienne est intéressante parce qu'en fait, elle permet de voir comment on peut appliquer les droits de la nature. En 10 ans, 32 procès ont été menés pour défendre les intérêts d'écosystèmes, ou même d'espèces animales, et 25 ont été gagnés. Ailleurs, c'est une autre stratégie qui est utilisée, ce sont des parlements ou des juges qui ont statué de façon ciblée sur des écosystèmes en danger ou emblématiques sur leur territoire.
Alors racontez-nous ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande en 2017.
Alors il y a eu plusieurs cas, mais le plus médiatisé fut celui du fleuve Whanganui, qui a été reconnu comme une entité vivante, sujet de droit, et a été placé sous le gardiennage d'une tribu maori dont c'était le territoire ancestral.
Autre cas intéressant, la Colombie.
Oui, c'est un cas passionnant parce que là, ce sont 25 jeunes qui ont saisi la Cour suprême colombienne pour dénoncer la déforestation galopante de l'Amazonie colombienne et qui ont demandé à la Cour de reconnaître leur droit à un environnement sain en tant que génération future. Et la Cour est allée encore plus loin. Elle a reconnu la personnalité juridique de l'Amazonie colombienne, participant ainsi à préserver un des poumons de la Terre.
Merci à vous Valérie Cabanès. Et dans quelques instants, on va recycler du béton, oui, sur France Inter. Il y aura aussi de l'automne, hein. C'était Black Pumas sur France Inter, CO2, mon amour. Alors, je vais quand même faire une petite entorse à cette émission qui se veut quand même avant tout nature à présent, vous l'avez bien compris. Mais ça va être un travail que je vais vous présenter qui permet d'économiser la dite nature. Nous sommes dans l'Eure-et-Loire, nous sommes à côté de Chartres. On voit des panneaux, il y est Combray, on pense à Proust, une terre rasée de vent d'hiver ou bien chauffée à blanc l'été, transpercée au loin par deux aiguilles de la cathédrale. Vision d'espoir pour les pèlerins, on va laisser ça de côté, on va laisser Peggy de côté. Et là, je vous emmène sur une plateforme de déconstruction et donc un exemple positif dans le bâtiment. Bottes et casques, ça y est, c'est bon pour vous? Hop, c'est parti.
Ah, là je me suis avancé sur la plateforme, je vais dire, de concassage. Et alors là, je suis en train de gravir, en fait, une petite montagne. Alors moi, c'est pas celle en général que je vous emmène dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Elle va faire, allez quoi, 35 mètres, oui, maximum, avec la plaine de Chartres sous les yeux. Et donc, je suis en train de marcher sur ces cailloux qui sont issus de la démolition. Et c'est ceux-là qui, après, donc, vont être transformés en sable et en gravier. Et donc, on récupère une belle matière qui est de nouveau une matière première qui ne terminera pas celle-là enfouie sous les routes. Christian Herria, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Christian, vous êtes, on va dire, consultant homme du bâtiment aujourd'hui donc chez Protea Conseil. Faites-nous un petit peu le tableau quand même lorsque l'on parle de ce fameux recyclage.
On est passé de la démolition, on faisait un grand tas et on trouvait un grand trou, on mettait le grand tas, à la déconstruction, c'est-à-dire qu'on va commencer à déshabiller le bâtiment, ce bois, les fenêtres, les cloisons, et on va garder la structure, et la structure, on va la déconstruire, et on va essayer de la recycler.
Alors Christian, là c'est très intéressant, parce que vous avez ramassé ce qui vient en fait de la démolition, et alors après, comment ça se passe? Parce qu'on voit bien que d'un côté on va avoir du sable, et de l'autre on a ce petit gravier.
Tu vois Denis, là, ce grand tas, il en font deux. Un qui est un petit peu mélangé du sable, des morceaux, ça c'est en sous-couche routière. Et là, il récupère les plus gros cailloux. Alors, ils appellent ça de la roche. Il y a un peu de plâtre, il y a un peu de plastique dedans, un peu de papier. Et là, derrière, ils vont concasser, trier, laver, séparer les produits. Et à la fin, ici, tu es devant trois tas. Un tas de sable, un tas de gravier petit et un tas de gravier plus gros. Ce gravier là, superbe, propre, lavé. On voit bien qu'il y a ici ou là encore un petit peu de ciment autour, mais il est intégrable dans tous les bétons.
Et donc ça évite de l'extraire du gravier, par exemple.
Exactement, d'une carrière. Et là, regardez, Denis, le particulier, il est venu poser de la terre et il va au bout du parc et il reprend du gravier et rentre chez lui.
Alors le salon Batimat, en fait, pour les professionnels, a fermé ses portes. Guillaume Loiseau, on est le président de ce salon Batimat, on va l'entendre dans quelques instants aussi. Qu'est-ce que ça représente, en fait, les déchets du bâtiment? 325 millions de tonnes par an, dont 46 millions issus du dit bâtiment. 33% donc quand même de déchets qui sont pas recyclés, c'est quand même pas exactement neutre. Alors on fait beaucoup de remblais, de sous-couches, hein, il faut entre 3 et 7 mètres par exemple pour un remblai pour une sous-couche de TGV. Et le sable, on le sait, n'est pas une ressource non plus infinie, c'est l'ingrédient principal du béton. C'est pour ça que je me suis rendu sur cette plateforme chez la famille Poulard, et là nous allons rencontrer Aline. Aline Poulard, je me tourne vers vous, bonjour à vous.
Bonjour.
Ah, vous connaissez par cœur, vous êtes né là, vous pratiquement ici.
Presque. Hein.
Lorsque je suis un artisan, en général, je vais payer, alors, je suis une moyenne française, hein, 90 euros donc la tonne, pour aller déposer mes gravats dans un site plus ou moins spécialisé. Combien je paye ici chez vous?
Pour les gravats, on paye 2 euros hors taxe la tonne.
Alors votre originalité, c'est que vous avez eu envie d'aller plus loin que de faire forcément du remblai et des sous-couches.
Tout à fait, on s'est dit... Le béton, on l'utilise, on doit bien pouvoir le réutiliser. Donc on a pensé à tout un processus en fait pour le nettoyer et pouvoir refaire du sable et du gravier pour refaire du béton.
C'est-à-dire que vous cassez tout ça là, c'est ce que je vois donc ouais. Derrière donc
Tout à fait, on le casse, on sépare les différentes dimensions de cailloux. Ouais. et on le lave principalement. C'est ça qui fait l'originalité, c'est que nous on lave pour qu'il n'y ait vraiment plus rien qui pollue pour refaire du béton.
Alors ça c'est un vrai choix, parce que ça veut donc dire que pendant ce temps-là, on ne va pas taper dans la ressource naturelle, dans des carrières, et Dieu sait si ici, on a quand même ce qu'il faut. Quoi. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller taper dans une carrière plutôt que de reprendre ce matériau.
C'est beaucoup plus simple, mais ça prend les ressources naturelles. Alors que nous, on recycle finalement, c'est tout l'enjeu, de recycler tout le béton.
Alors, vous l'avez fait pourquoi ? C'est-à-dire que c'est intéressant de savoir pourquoi vous avez eu cette idée-là et cette envie-là quand même, vous, entrepreneur.
Cette idée parce que on est pour le recyclage et puis aussi ça apporte une valeur ajoutée aux granulats qu'on revend par rapport aux granulats de remblai.
Alors, au départ c'était pas simple parce qu'il faut quand même aussi des clients qui vont vous dire « Ah bah ouais, peut-être que votre granulat il est pas de la même qualité que... »
Non.
Entre guillemets, guillemets, quoi.
Il a fallu se battre un petit peu. On a principalement, avec les grandes surfaces de bâtiments, de distribution de bâtiments, on a réussi à rentrer pour faire connaître du grand public. Et puis après, des maîtres d'œuvre, des maçons. Et puis petit à petit, ça se fait. Et on arrive même maintenant avec les industriels du bâtiment.
Aline Poulard, ces matériaux aujourd'hui, donc, ils sont normés. Donc ça doit rassurer bien sûr le client. Mais je crois qu'il y a une limite d'utilisation.
Pour les bétons normés, on peut mettre que 30% de cailloux, de gravier, dans le béton et à l'heure actuelle 0% de sable pour faire des bétons normés.
Alors comment ça se fait ? Il faut que ça bouge d'un point de vue législatif, ça ou...
Oui, il faut. Il y a Rossi Béton qui travaille pas mal sur le sujet. C'est en train de bouger, ça devrait pas tarder à se faire, mais on attend.
Alors, Christian Herrera, vous qui observez tout ça depuis longtemps, on est quand même dans le sens de l'histoire avec ça.
Oui, on se rappellera qu'ici, sur le site, Poulard Granudem a eu un prix en 2002 parce qu'il, au lieu de mettre son tas de déchets dans un trou, il commençait à les casser. Et en 2002, c'est très innovant de venir casser ce béton-là pour essayer de le récupérer en sous-couche routière. Donc il y a un grand pas qui se fait. Là, aujourd'hui, on est au début d'une grande histoire. Il y a des contraintes, il y a des difficultés, il y a de la lourdeur, il y a des freins... Mais c'est dans l'air du temps.
Guillaume Loiseau, ça veut dire qu'on est aujourd'hui quand même sur une évolution de ce métier.
On est au début d'une histoire, très clairement. Donc il va falloir agir sur appuyer sur tous les boutons. La façon de concevoir les bâtiments est inciter fortement à utiliser des produits issus de filières de revalorisation, avoir plus de points de collecte et de déchetterie, et puis que tous les professionnels prennent les devants et s'engagent. Donc tout le monde est en train de prendre conscience que c'est un gros sujet, évidemment environnemental, ça va sans dire, mais économique. Et c'est un sujet de société. Et donc il faut que tout le monde s'y mette.
Il y a quand même deux solutions. Soit ce sont les filières qui s'organisent et qui proposent leur système, on va dire, de recyclage. Ou bien c'est ce que l'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, la REP, avec une éco-contribution. Et ça, en général, les gens du bâtiment ou d'ailleurs, ils aiment pas trop. Quoi. Donc,
Ils aiment pas trop parce qu'en fait... Si on prend le sujet un peu rapidement, on désigne un seul producteur du déchet, donc entre guillemets un seul pollueur. Alors c'est qui ? C'est le négociant qui l'a vendu, c'est l'entreprise qui l'a posé, c'est celui qui l'a prescrit ou l'industriel qui a fabriqué ce même matériau. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a...
Oui, enfin, à part que vous avez déjà 14, si vous voulez, donc autres domaines dans lesquels ça fonctionne pas si mal que ça. Quoi.
Ça peut très bien fonctionner. Par contre, la comparaison... Il faut la regarder attentivement puisque les autres filières où ça fonctionne sont des filières en fait avec beaucoup moins de maillons dans la chaîne et des filières beaucoup plus intégrées. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire dans le bâtiment, je dis juste qu'il faut trouver
peut-être une pile.
Voilà, un écosystème, oui. Au sens propre comme au figuré, qui prenne ses spécificités en fait de la chaîne de valeur du bâtiment. Mais il faut le faire, il faut aller vers ça, oui. Parce qu'en fait, ça touche tous les maillons de la chaîne. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, justement, d'exploitants et de propriétaires de carrières qui vont peut-être comprendre et réaliser que demain, ça va être un facteur de différenciation pour leur commerce. Parce que quand les entreprises du coin qui prennent plein de projets vont elles-mêmes exiger, en fait, d'avoir ce type de solution pour ne pas elles-mêmes perdre un chantier puisque le maître d'ouvrage leur aura imposé, ça va remonter sur toute la chaîne. Et donc, la carrière qui a ce procédé, en fait, de transformation qui... s'embête à maîtriser sous toute cette revalorisation, demain elle fera plus de business.
Ah bon, on n'a pas fini, hein. Non, non, il nous faut aussi quand même quelqu'un qui bâtit, ça va drôlement nous intéresser, juste après qui ? Jean-Louis ? Ah bah oui, il est retraité, non, Jean-Louis Aubert, c'est ça.
Je vis à l'heure dans le cœur d'une t'envoler, à cesser de couler. Les jours passent comme de l'eau, à mes pieds immobiles, de grandes roues dentelées semblent me regarder. L'amour suit son Le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante. La nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quitté. Des lions dorment à mes pieds, près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. L'amour rester. Les saules coulent des branches qui doucement se penchent sous les lueurs du ciel, tendrement reflétées. Si parfois une rose semble dire quelque chose, c'est chuchoter au cœur, et seulement quand elle ose, pas besoin d'autre chose. Pense tes échymoses, ne pense plus à ces choses, c'est là que tu te poses. Ton voyage t'alourdit, oiseau du paradis, et le coup d'aujourd'hui, c'est va donc la retrouver.
Eh ben, elle est jolie celle-là, dites donc, là, sur France Inter, Jean-Louis Aubert, extrait de son nouveau album qui est tout, enfin voilà, c'est un œuf pratiquement du jour, hein, celui-là. Où je vis, à Chartres, faut suivre mon gars, oui.
Trois solutions.
CO2, mon amour.
Le feu, le béton, l'acide. Je serais plus pour le béton. Enfin, encore faut-il en trouver 2 tonnes. Et 2 tonnes de béton, quoi qu'on en dise, c'est pas facile à trouver. Et puis ça se prépare, il faut du béton à prise rapide. Le béton français est pas mal pour ça.
Denis Chessou.
J'aime résoudre les problèmes rapidement.
Sur France Inter.
Oui, non, ça peut servir à plein de choses, hein, le béton, on s'en doute bien. Bon, on reste quand même dans un domaine tout à fait pacifique. Comment faire entrer donc le monde du bâtiment, en fait, dans l'ère de l'économie circulaire? C'est pas simple. Projet de loi anti-gaspillage porté donc par Brune Poirson. Et puis, lorsqu'on parle évidemment de principe pollueur-payeur, en général, on n'aime pas en France. On est d'accord sur le papier, mais on n'aime pas trop. Puis ça coûterait quand même 2 milliards pour le monde du bâtiment. On a envie d'en savoir plus, surtout quand on parle de décharges sauvages. Guillaume Loiseau, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Guillaume Loiseau, vous êtes à la fois le directeur du Mondial du Bâtiment, vous êtes le président du salon Bâtimat, puis vous êtes aussi un homme qui vous intéressez aux placo plates parce que vous venez en fait de ce monde-là. Et on a envie quand même d'en savoir un petit peu plus sur ce phénomène quand même assez douloureux de ce que l'on appelle les décharges sauvages. Il y en avait partout, il y en a partout quand même en France, c'est-à-dire que l'on voit des artisans qui déversent leur gravats sur les bords de route. Donc où en est-on? Et puis il y a quand même une loi qui est en train de passer tout à fait intéressante sur l'économie circulaire.
Alors oui, effectivement, les décharges sauvages, je pense que personne se satisfait de ce problème. C'est à la fois un problème environnemental et ça pose aussi plein d'autres problèmes. Plutôt que de décharges ou de déchets, en fait, regardons l'opportunité. Un chiffre très simple. Est-ce que vous savez qu'il y a 500 déchetteries professionnelles en France quand il y en a plus de 4000 pour les particuliers? Donc déjà, première action concrète à inciter ou à mettre en place
davantage,
voilà, et à
de
financer
pour les professionnels.
Davantage de charges pour les professionnels. Parce que s'il faut faire 90 km pour amener une brouette de tuiles, non, économiquement, ça ne tient pas la route. Deuxième chose, il va falloir le plus rapidement possible inscrire dans la réglementation un certain nombre de mesures qui incitent les fabricants de matériaux à utiliser un pourcentage de produits issus de voies de revalorisation. Alors, on parle pas de science-fiction, il y a des filières qui le font déjà très bien aujourd'hui. Le métal est une filière organisée depuis longtemps, le bois aussi, le PVC aussi, on recycle à peu près 700 000 tonnes en fait de PVC.
Alors nous on se rend pas compte du tout, c'est-à-dire en termes de pourcentage, mettons sur le placo plâtre que l'on utilise, combien effectivement on recycle en termes
alors,
de
déchets. Sur l'ensemble en fait des déchets, on considère, je dis on considère parce que les études extrêmement précises n'existent pas. L'évaluation en fait, l'ordre de grandeur c'est environ 10%. Sur le plâtre par exemple techniquement aujourd'hui, de par les efforts qu'ont fait les industriels, on peut monter jusqu'à 20% de plâtre qui est issu de filières de revalorisation.
Je vais me tourner vers une femme qui est absolument indispensable, c'est Patricia Fessilier. Bonjour Patricia.
Bonjour Denis.
On est avec vous parce que vous êtes un opérateur donc immobilier, Procivis, vous êtes donc sur Chartres. Et alors c'est extrêmement rare parce que vous avez eu cette volonté d'utiliser justement des matériaux recyclés de chez Granulem. Et en fait c'est assez nouveau parce que j'imagine que pendant un temps, enfin, d'autres collègues ont dû vous regarder avec des grands yeux, quoi.
Alors, il se trouve qu'en Beauce, on a la chance d'avoir de la ressource naturelle de sous-sol. Mais on a également une entreprise qui est innovante, qui avait une démarche d'innovation, et nous, ça nous intéresse toujours localement. C'est toujours plutôt par curiosité, ne serait-ce que par curiosité. Et on s'est posé la question, est-ce que l'on pouvait valoriser dans nos constructions ces granulats? Et lorsque les premières réflexions se sont fait jour et que nous en avons parlé autour de nous, l'accueil a été très frais.
Parce qu'on disait quoi, ça allait se
fissurer. Un peu comme aujourd'hui, oui, ça allait se fissurer. Est-ce que vous pensez à vos clients? Le bâtiment, il doit rester en vie 50 ans, 100 ans. Les assurances ne vont pas suivre. Et on a eu des réunions avec les assureurs qui nous disaient oui, on assure, mais. Et moi, j'entendais des mais. Et un peu une impossibilité de faire, mais on ne savait pas pourquoi. Si on n'y va pas, on ne saura pas si ça fonctionne. Il n'y avait à l'époque pas de bloc de béton, il n'y avait pas de prémure en béton, il n'y avait pas d'ouvrage structurant de bâtiment en béton. Ces granulats recyclés, on les utilisait en sous-couche, c'est-à-dire pour les routes, mais on ne les utilisait pas pour des ouvrages structurants, alors qu'on pouvait techniquement, on avait le droit techniquement de le faire. On s'est rendu compte que l'on pouvait tenter l'expérience et l'aventure, parce que ça a été un petit peu une aventure au début.
Bah oui, c'est ça. Qu'avez-vous envie de dire quand même à d'autres promoteurs pour se lancer dans cette affaire? Parce que ça va vraiment pas de soi.
Alors, c'est ni plus ni moins rentable. La notion d'argent, enfin de rentabilité, n'a pas lieu d'être. Par contre, c'est un engagement sociétal, à mon avis, très très fort. C'est également un engagement, c'est une aventure humaine. Et cette aventure, cette capacité à faire ensemble, je pense que chaque maître d'ouvrage doit s'en emparer. C'est ça qui est important. C'est de la responsabilité de chacun de se dire, je vais essayer de le faire. On n'était pas obligé de le faire. Est-ce que l'on prenait un risque? Moi, je considère que nous n'avons pas pris de risque. Maintenant, c'est aux autres maîtres d'ouvrage à prendre cette responsabilité, à relayer. Aujourd'hui, par exemple, nous intégrons du granulat dans des ouvrages courants. Nos maçons qui ont travaillé avec nous, et même ceux qui n'ont pas travaillé avec nous d'ailleurs, mais
donc
qui connaissent
granulat recyclé, qui sort d'ici, de chez Granulat.
Qui sort d'ici, voilà. Et ils téléphonent directement. Et demain, je coule une dalle, je mets du granulat.
Quand même, cette notion d'environnement, elle vous est chère, vous?
Oui, elle nous est chère. On est dans un territoire agricole. Un petit peu particulier, la Beauce.
Bah, c'est-à-dire complètement nitraté jusqu'aux oreilles. Moi, je n'hésite pas à le dire. Le sol est un support, l'eau est polluée. Enfin, voilà, tout va bien.
Alors, le sol est un support. Le sol est pour nous une ressource à double titre. C'est du foncier sur lequel nous construisons des maisons. Et c'est effectivement une source de matériaux. Et on veut construire mieux pour nous, pour nos enfants. Je crois que ça, on le comprend quand on a des enfants, mais surtout, le jour où on a des petits-enfants. Ce jour-là, on réfléchit un peu plus.
Guillaume Loiseau, est-ce qu'à terme, on pourrait imaginer des bâtiments entièrement avec des matériaux recyclés?
Alors, à 100%, si entièrement veut dire 100%, je pense qu'on est très loin de la cible quand même. Ça va prendre beaucoup de temps parce que, au-delà des incitations sur de l'éco-design, il y a des vraies barrières techniques, donc je pense à la mécanique, notamment des matériaux. Tout un domaine, en fait, je pense qu'il y a besoin d'investir dans beaucoup de recherches pour qualifier l'ensemble des composants, donc de ces ex-déchets, comme composants de matériaux neufs qui ont tous des caractéristiques propres et qui, à la fin, font qu'un bâtiment tient, résiste au feu et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on en a envie? Oui, bien sûr. Je pense qu'il va se passer beaucoup de temps avant qu'on en arrive là. Mais si déjà on arrivait à 30% des constructions neuves qui, dans la volumétrie des matériaux employés, à hauteur de 30%, intègrent des produits issus de filières de revalorisation, on aurait beaucoup moins de déchets par an.
Christian Herreria.
On aimerait, c'est une cible, mais on manque de ressources. On construit plus qu'on ne déconstruit. Donc il n'y a pas de sens. Enfin, aujourd'hui, vous voyez ici, on n'a pas de sens de reconstruire Chartres avec le tas qu'on voit ici. Donc 30% me semble un bel objectif. 100%, peut-être qu'on fera un bâtiment comme ça à 100% pour montrer que c'est possible, mais il manque de ressources.
Et est-ce que l'on construit en pensant à la déconstruction aujourd'hui dans le bâtiment ?
On ne le fait pas. Et un des enjeux d'économie circulaire, effectivement, l'éco-conception, va être de réfléchir à un bâtiment qui peut durer plus longtemps, parce qu'on peut bouger les cloisons, bouger les murs, également de pouvoir faciliter la déconstruction demain et le réemploi des matériaux. C'est un enjeu aussi, mais comme il n'y avait pas de demande, on ne l'a pas fait.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Hein.
Aline.
Par rapport à la construction à 100%, pour moi, techniquement, c'est possible de le faire. Aujourd'hui, sur le site, on a une centrale à béton. On fait des bétons en 100% granulats, donc sable et gravier recyclés. Et on a des résultats qui prouvent que nos bétons sont aussi résistants, même voire plus résistants, qu'avec un béton fait avec des granulats calcaires.
Enfin, déjà, ils soient aussi résistants, c'est déjà pas mal. Quoi.
C'est déjà pas mal. Alors, je m'avancerai peut-être pas sur un pont ou des choses particulières comme ça, mais aujourd'hui, construire une maison en granulats 100% recyclés, c'est tout à fait faisable. On est sur un projet où on veut construire des maisons là, on voudrait le faire en 100% recyclé, c'est le problème des assureurs qui ne suivent pas, mais aujourd'hui, construire une maison avec 100% de granulats recyclés, c'est faisable.
Alors beaucoup de réflexions donc lors de ce mondial du bâtiment, me disait Guillaume Loiseau, parce que donc l'économie circulaire avant, si vous voulez, c'était un sujet de conférence, c'était vachement bien. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet de mobilisation et pour cause. Vous avez donc cette loi sur l'économie circulaire, donc 2020. Donc ça discute âprement. Hein, d'un côté, la profession, bah elle veut pas trop payer non plus. Donc comment on fait, comment on se débrouille. Si vous êtes particulier, ça c'est autre chose. Bah vous le savez, si vous avez des déchets comme ça, bah c'est vraiment la déchetterie. Et les professionnels. Ben, ils ont 500 sites, donc c'est pas suffisant non plus. C'est pour ça que là, il faut élargir l'affaire. Et puis, c'est intéressant d'avoir donc l'exemple de Procivis, parce que c'est un véritable laboratoire local et localement, c'est en train d'agréger quand même pas mal d'acteurs. Voulez-vous une petite bouffée ? Ah, d'air frais, ça va vous faire du bien.
CO2, mon amour.
C'est comme ce ciment. Tu peux être sûr que c'est un ciment hongrois, hein, la loi de l'éternel provisoire. Hein. Et tu peux être sûr qu'ils mettent beaucoup plus de sable qu'ils ne mettent de ciment. Hein. Ça, c'est certain.
Denis Chessou.
C'est des économies de bouts de chandelle et après, les murs se lézardent. Ça, c'est certain. Il y a des fissures, tout le bazar. Hein.
Sur France Inter.
Nous, on gardera le côté lézard, hein, dans le côté lézard. Mais enfin, c'est pas le moment, parce que là, ils sont un petit peu planqués. Alors, je sais, pour un dimanche, c'était peut-être un sujet un peu bruyant, mais quand même tout à fait positif. Alors, il nous faut du calme, quelques minutes, tout cela. Je vous emmène en Chartreuse. C'était il y a 2 jours, parce que j'ai tourné un sujet qui passera le 8 décembre sur les chouettes, avec Patrick Deschamps. Nous sommes dans l'Isère. Et Patrick Deschamps, qui est un naturaliste assez génial, bah, nous parle de son goût pour l'automne.
Est-ce que tu as remarqué comme l'intensité des verts est formidable en automne ? La lumière de l'automne, ça sublime la couleur verte. Partout, on regarde les prairies, les arbres, les couleurs des verts, ça ressort surtout par temps pluvieux comme ça. Quand le ciel est humide, on a l'impression qu'il y a un effet de loupe. On voit mieux les couleurs. Pour moi, la plante magnifique de l'automne, c'est le fusain. Le bonnet d'évêque, ça c'est la seule concession que je ferai au Vatican. Hein. Tu vois, le bonnet d'évêque, cette espèce de couleur rose tyrien intense là.
Et puis c'est quand même aussi la période où on récolte.
Et oui, c'est ça. Là, on se balade et puis on se dit, oh là, mais c'est le temps de rentrer les lantanas par exemple. Les lantanas ne vont pas supporter le premier gel. Donc il va falloir les tailler et puis les rentrer à la maison. Ouais. C'est quand même bien le rythme des saisons parce que, comme disait l'autre Brassens, les pays imbéciles où jamais il ne pleut. Hein, on se lève le matin, il fait beau. On se couche le soir, il fait beau. Le lendemain, il fera beau. Il fait toujours beau. Là, il y a un rythme des saisons. Donc, chaque saison amène ses activités. Et évidemment, on s'en rend moins compte parce qu'on habite dans des appartements chauffés et tout ça. On taille, on entretient. Et l'acacia est taillée. Voilà. Hop. On porte ça sur le côté. Et on fait des tas. Et les tas... C'est pas moi, c'est une plante pour les animaux. Voilà. J'aime bien le bruit du sécateur, je sais pas pourquoi, ça m'excite. Là, un sureau, hop, cette branche va dépasser, elle va gêner les voitures, je vais la couper, et voilà.
Et c'est fait.
Et puis celle-là va me servir. Elle est bien sèche, je vais la casser en petits morceaux, et je vais la mettre sur le foyer et en faire du feu. Voilà, je ne repars jamais les mains vides. Chaque geste que je fais, c'est utile. Voilà. je ne fais jamais du sport pour rien. D'abord, je ne veux pas me fatiguer pour rien. Il faut que ça serve à quelque chose. Voilà.
Patrick Deschamps, je suis un animal. Qu'est-ce qui se passe pour moi à l'automne, juste au-dessus dans votre chartreuse?
Ben là, juste au-dessus, là, il y a un terrier de renard. Il ne faut pas trop le dire parce que je sais qu'il y a un renard parce que je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps. C'est un endroit qui est très beau ici parce que c'est une colline de sable. Donc, c'est pas constructible. Ouais. Il y a des vaches, il y a des chevaux. Et surtout, il n'y a pas de lotissement. Et comme c'est une zone où il y a des épineux, des pruneliers, donc ça, c'est un endroit où il y a des baies sauvages. Les grives, à l'automne et à l'hiver, elles ont de quoi manger. Et en été, ben, il y a la pigrièche qui niche ici. Et puis le petit chant merveilleux du rouge-gorge qu'on entend au loin. Et le pic.
C'est lequel? Le noir?
Pic et pêche, ouais.
Pic et pêche. Ouais.
Là, il est attiré par les scolytes qui se sont mis dans les épicés à mort. Et là, on voit pas mal de pinsons qui passent de partout. Ça bouge, hein, ça bouge de partout. Il y a des pinsons du nord qui sont arrivés, donc ça renforce les populations de pinsons. Alors, dans le meilleur des cas, les gens, ils voient des oiseaux passer, c'est des moineaux, quoi. Mais non, là, c'est des pinsons.
Qu'est-ce qui caractérise l'automne, véritablement? Donc, pour vous, vous avez commencé à le dire, Patrick Deschamps, mais...
Le repos de la nature. Les arbres, la sève ne monte plus, ils vont perdre leurs feuilles, ils vont s'économiser, ils vont attendre l'hiver. Comme nous, on va faire le gros dos, puis on va se mettre à l'abri. Les jours entre deux averses et deux brouillards, on va sortir dès qu'il y a une... Là, quand le soleil arrive, ben, on est content, on en sort, on s'ébouriffe comme une chouette hulotte, là, on se remue et puis on est content. On se le prend dans la tronche, ça fait du bien, ça nous masse. Voilà. Et puis les bandes brumes, comme ça, qui circulent, qui montent de la terre, qui rejoignent les nuages, tout ce mouvement de bas en haut, comme ça. L'automne, c'est une saison où on est un peu triste. Moi, je suis né en novembre, c'est pas la meilleure période de ma vie, et en même temps, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Partout où on se tourne, c'est en harmonie. Même quand il y a des arbres cassés, ça finit par être beau. Cette masse de chênes-là, cette boule de chênes qu'ici, c'est magnifique. Donc ça, c'est bourré de jets, évidemment, parce qu'il y a des glands. Ces pentes douces comme ça, tout est douceur, tout est luxe, calme et volupté.
C'était notre petit bol de nature de l'Isère au pied de la Chartreuse avec Patrick Deschamps. Et la dernière citation de l'émission, elle est dite par qui? Par Jacques Bonafé.
Ne demande jamais ton chemin, tu ne pourrais pas te perdre, proverbe soufi.
Nous avons préparé cette émission avec Thomas Lehété, Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui l'a réalisé. Anne Gouzon, donc nourrit les sites la semaine prochaine. Ah, on a besoin d'un peu d'embrun. Eh ben, vous allez en avoir. Je vais vous emmener sur le gouffre. Qu'est-ce que c'est que le gouffre? C'est un canyon sous-marin. Nous allons aller du côté du Cap Breton avec Hugo Verlhomme. Je vous souhaite un excellent week-end. La Tulu Montilou, ce sera 19h55. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Bon week-end, c'est déjà pas mal.